Chapitre 10 La servitude. Chaque jour était pour Croblant l'occasion d'une expérience nouvelle. Tout le temps que Quiche resta attaché à son bâton, il courut seul par tout le camp, quêtant, furetant, s'instruisant. Il fut vite au courant des diverses habitudes des animaux hommes. Mais la connaissance n'entraîne pas toujours l'admiration. Plus il se familiarisa avec eux, plus aussi il détesta leur supériorité et redouta leur pouvoir mystérieux qui, d'autant qu'il était plus grand, rendait plus menaçante leur divinité. La déception est souvent donnée à l'homme de voir ses dieux renversés et piétinés sur leurs autels. Mais aux loups et aux chiens sauvages venus s'accroupir aux pieds de l'homme, cette déconvenue n'arrive jamais. Tandis que nos dieux demeurent invisibles et surnaturels, les vapeurs et les brouillards de notre imagination, nous masquant leur réalité, nous égarant comme des aveugles qui tâtonnent dans le royaume de la pensée en d'abstraites conceptions de toute puissance et de beauté suprême, le loup et le chien sauvage, assis à notre foyer, trouvent en face d'eux des dieux de chair et d'os, tangibles au toucher, tenant leur place dans le monde et vivant dans le temps comme dans l'espace, pour accomplir leurs actes et leurs fins. Aucun effort de foi n'est nécessaire pour croire un tel Dieu. Nul écart de la volonté ne peut induire à lui désobéir ni à le renier. Ce Dieu-là se tient debout, immuable, sur ses deux jambes de derrière, un gourdin à la main, immensément puissant, livré à toutes les passions, affectueux ou irrité selon le moment, pouvoir mystérieux enveloppé de chair qui saigne parfois à l'instar de celle des autres animaux et qui est alors plus savoureuse qu'aucune autre à dévorer. Croblant subit la loi commune. Les animaux hommes furent pour lui, dès l'abord, sans erreur possible, les dieux auxquels il était nécessaire de se soumettre. Comme Quiche, sa mère, avait, au premier appel de son nom, repris sa chaîne, il leur voua tout de suite obéissance. Il suivit leurs pas comme un esclavage fatal. Quand ils marchaient près de lui, il s'écartait pour leur faire place. Lorsqu'il l'appelait, il accourait. S'il menaçait, il se couchait à leurs pieds. Et s'il lui commandait de s'en aller, il s'éloignait précipitamment. Car derrière chacun de leurs désirs était le pouvoir immédiat d'en exiger l'exécution. Pouvoir qui s'exprimait lui-même en tape de la main, coup de bâton, pierre volante et cinglant coup de fouet. Il appartenait aux animaux hommes comme tous les chiens du campement leur appartenaient. Ses actions étaient à eux, son corps était à eux pour être battu et piétiné, et pour le supporter sans récrimination. Telle fut la leçon vite apprise par lui. Elle fut dure, étant donné ce qui s'était déjà développé dans sa propre nature de force personnelle et d'indépendance. Mais tandis qu'il prenait en haine cet état de choses nouveau, il apprenait en même temps, et sans le savoir, à l'aimer. C'était en effet le souci de sa destinée remise en d'autres mains, un refuge pour les responsabilités de l'existence. Et cela constituait une compensation, car il est toujours plus aisé d'appuyer sa vie sur une autre que de vivre seul. Il n'arriva pas, sans révolte, à s'abandonner ainsi corps et âme, à rejeter le sauvage héritage de sa race et le souvenir du Wild. Il y eut des jours où il rampait sur la lisière de la forêt et y demeurait immobile, écoutant des voix lointaines qui l'appelaient. Puis il s'en retournait vers Quiche, inquiet et malheureux, pour gémir doucement et pensivement près d'elle, pour lui lécher la face en semblant se plaindre et l'interroger. Le louveteau avait rapidement appris tous les tenants et aboutissants de la vie du camp. Il connut l'injustice des gros chiens et leur gloutonnerie quand la viande et le poisson étaient jetés à l'heure des repas. Il vint à savoir que les hommes étaient d'ordinaire plus justes, les enfants plus cruels, les femmes plus douces et plus disposées à lui lancer un morceau de viande ou d'os. Après deux ou trois aventures fâcheuses avec les mères des tout petits chiens, il se rendit compte qu'il était de bonne politique de laisser celle-ci toujours tranquille, de se tenir aussi loin d'elle que possible, et en les voyant venir, de les éviter. Mais le fléau de sa vie était Lip Lip. Plus âgé, plus grand et plus fort que lui, Lip Lip avait choisi Cro-Blanc pour son souffre-douleur. Le louveteau se défendait avec vaillance, mais il n'était pas de taille pour être un adversaire dangereux. Son ennemi lui était trop supérieur, et Lip Lip devint pour lui un vrai cauchemar. Dès qu'il se risquait un peu loin de sa mère, il était sûr de voir apparaître le gredin, qui se mettait à le suivre en aboyant et en le menaçant, et qui attendait le moment opportun, c'est-à-dire qu'aucun animal homme ne fût présent, pour s'élancer sur lui et le contraindre au combat. Lip Lip l'emportait invariablement et s'en glorifiait de façon démesurée. Ces rencontres étaient le meilleur plaisir de sa vie et le perpétuel tourment de celle de Cro-Blanc. Le louveteau, cependant, n'en fut pas abattu. Si dur que fussent pour lui toutes ses défaites, il ne se soumit pas. Mais la persécution sans fin qu'il subissait eut sur son caractère une influence néfaste. Cro-Blanc devint méchant et sournois. Ce qu'il y avait d'originellement sauvage dans sa nature s'aggrava. Ses poussées joyeuses d'enfant ingénu ne trouvèrent plus d'expression. Jamais il ne lui fut permis de jouer et gambader avec les autres petits chiens du camp. Dès qu'il arrivait auprès d'eux, Lip Lip, fonçant sur lui, le roulait et le faisait fuir terrifié, ou s'il voulait résister, engager la bataille jusqu'à sa mise en déroute. Cro-Blanc fut ainsi sevré de beaucoup des joies de son enfance, ce qui le rendit plus vieux que son âge. Il se replia sur lui-même et développa son esprit. Il devint rusé et, dans ses longs moments de farniente, médita sur les meilleurs moyens de duper et frauder. Empêché de prendre à la distribution quotidienne la part qui lui revenait de viande et de poisson, il se transforma en habile voleur. Contraint de s'approvisionner lui-même, il s'en acquittait si bien qu'il devint une calamité pour les femmes des Indiens. Il apprit à ramper dans le camp comme un serpent, à se montrer avisé, à connaître en toute occasion la meilleure façon de se conduire, à s'informer par la vue ou l'ouïe de tout ce qui pouvait l'intéresser, afin de n'être point pris ensuite au dépourvu, et aussi à recourir à mille artifices pour éviter son implacable tyran. Ce fut au plus fort de cette persécution qu'il joua son premier grand jeu et goûta, grâce aux ressorts de son esprit, aux joies savoureuses de la revanche. Comme Quiche, quand elle était avec les loups, avait leurré les chiens pour les attirer hors du campement des hommes et les envoyer à la mort, ainsi le louveteau, par une manœuvre à peu près semblable, réussit à attirer Lip Lip sous la mâchoire vengeresse de Quiche. Battant en retraite tout en combattant, Cro-Blanc entraîna son ennemi à sa suite, ici puis là, parmi les différentes tentes du camp. C'était un excellent coureur, plus rapide qu'aucun autre petit chien de sa taille et plus alerte que Lip Lip. Sans donner toutefois toute sa vitesse, il se contenta de garder la distance nécessaire, celle d'un bond environ entre lui et son poursuivant. Lip Lip, excité par la chasse et par l'approche imminente de la victoire, perdit toute prudence et oublia l'endroit où il se trouvait. Quand il s'en rendit compte, il était trop tard. Après avoir traversé à fond de train une dernière tente, il tomba en plein sur Quiche, attaché à son bâton. Il jeta un cri de stupeur, mais déjà les gros justiciers se refermaient sur lui. Quoique Quiche fût liée, il lui fut impossible de se dégager d'elle. Elle le mit sur le dos, les pattes en l'air, de manière à l'empêcher de fuir, tout en le déchirant et lacérant. Quand il parvint enfin à se rouler hors de sa portée, il se remit sur ses pieds en un affreux désordre, blessé à la fois dans son cœur et dans sa pensée. Sa fourrure pendait autour de lui en touffes humides que les dents baveuses de la louve avaient tordues. Il demeura là où il s'était relevé, et ouvrant largement sa petite gueule, éclata en une longue et lamentable plainte de chien battu. Mais il n'eut pas le temps d'achever sa lamentation. Gros Blanc, fondant sur lui, planta ses crocs dans son train de derrière. Il n'avait plus de force pour combattre, et honteusement se sauva vers sa tente, talonné par son ancienne victime qui s'acharnait à ses trousses. Quand il eut rejoint son domicile, les femmes vinrent à son secours, et le louveteau, transformé en démon, fut finalement chassé par elles en une fusillade de cailloux. Le jour vint où Castor Gris, décidant que Quiche était réhabitué à la vie des hommes, la délia. Gros Blanc fut ravi que la liberté fût rendue à sa mère. Il l'accompagna joyeusement au milieu du camp, et voyant qu'il demeurait à ses côtés, Lip-Lip conserva entre eux une distance respectueuse. Le louveteau avait beau se hérisser à son approche et marcher en raidissant les pattes, Lip-Lip ignorait le défi. Quelle que fût sa soif de vengeance, il était trop sage pour accepter le combat dans de telles conditions et préférait attendre le jour où il se rencontrerait à nouveau en tête à tête avec Gros Blanc. Ce même jour, le louveteau et sa mère s'en vinrent rôder à la lisière de la forêt qui avoisinait le camp. Gros Blanc y avait amené Quiche pas à pas, l'entraînant en avant quand elle hésitait. Le torrent, la caverne et la forêt tranquille l'appelaient, et il continua ses efforts pour qu'elle le suivît plus loin. Il courait quelques pas, puis s'arrêtait et regardait en arrière. Mais elle ne bougeait plus. Il gémit plaintivement et gronda en courant de droite et de gauche sous les taillis. Puis il revint vers elle, lui lâcha le museau et se reprit à courir loin d'elle. Elle ne bougeait toujours pas. Alors il rebroussa le chemin et la regarda avec une supplication ardente de ses yeux qui tomba quand il vit Quiche détourner la tête et porter sa vue vers le camp. La voix intérieure qui l'appelait là-bas dans la vaste solitude, sa mère l'entendait comme lui. Mais un autre et plus fort appel sonnait aussi en elle, celui du feu et de l'homme. L'appel que, parmi tous les animaux, le loup a seul entendu, le loup et le chien sauvage qui sont frères. Quiche s'étant retourné, se mit à trotter lentement vers le camp. Plus solide que le lien matériel du bâton qu'il avait attaché, était sur elle l'emprise de l'homme. Invisibles et mystérieux, les dieux la maintenaient en leur pouvoir, et refusait de la lâcher. Gros Blanc se coucha sous un bouleau et pleura doucement. L'odeur pénétrante des sapins, la senteur subtile des bois imprégnait l'atmosphère et remémorait au louveteau son ancienne vie de liberté avant les jours de servitude. Mais plus que l'appel du Wild, plus que celui de l'homme, l'attirant de sa mère était puissante sur lui, car il était encore bien jeune. L'heure de son indépendance n'était pas arrivée. Il se releva désolé et trotta lui aussi vers le camp, faisant halte une fois ou deux pour s'asseoir par terre, gémir et écouter la voix qui chantait au fond de la forêt. Le temps qu'il est donné à une mère de demeurer avec ses petits n'est pas bien long dans le Wild. Sous la domination de l'homme, il est souvent plus court encore. Ainsi en fut-il pour Croc-Blanc. Castor Gris se trouvait être le débiteur de trois aigles qui étaient sur le point d'entreprendre une course du fleuve Mackenzie au grand lac de l'Esclave. Une bande de toile écarlate, une peau d'ours, 20 cartouches, et quiche remboursèrent sa dette. Le Louveteau vit sa mère emmenée à bord de la pirogue de trois aigles et tenta d'aller vers elle. Un coup qu'il reçut de l'Indien le repoussa à terre. La pirogue s'éloigna. Il s'élança dans l'eau et nagea à sa suite, sourd aux cris d'appel de Castor Gris. Dans la terreur où il était de perdre sa mère, il en avait oublié le pouvoir même d'un animal homme et d'un dieu. Mais les dieux sont accoutumés à être obéis, et Castor Gris, irrité, lança un autre canot à la poursuite de Croc-Blanc. Après l'avoir rejoint, il le saisit par la peau du cou et l'éleva hors de l'eau. Il ne le déposa pas d'abord dans la pirogue. Le tenant d'une main suspendue, il lui administra de l'autre une solide raclée. Oh oui, pour une raclée, c'en fut une. Lourde était la main. Chaque coup visait à blesser et les coups pleuvaient innombrables. Frappé tantôt d'un côté et tantôt d'un autre, Croc-Blanc oscillait en avant, en arrière, comme un balancier de pendule frénétique et désordonné. Les impressions qu'il éprouva furent diverses. À la première surprise succéda l'effroi, pendant un instant, au contact répété de la main qui le frappait. Mais la peur fit bientôt place à la colère. La libre nature du Louveteau prit le dessus. Il montra les dents et osa gronder à la face du dieu courroucé. Le dieu s'en exaspéra davantage. Les coups redoublèrent plus rudes et plus adroits à blesser. Castor Gris continuait à battre et Croc-Blanc à gronder. Mais cela ne pouvait pas toujours durer. Il fallait que l'un des deux eût le dernier mot. Ce fut Croc-Blanc qui céda. La peur le reprit. Pour la première fois, il connaissait véritablement la main de l'homme. Les coups de pierre et de bâton qu'il avait déjà eu l'occasion de recevoir étaient des caresses comparées aux coups présents. Il se soumit et commença à pleurer, à gémir. Durant un moment, chaque coup tirait une plainte de son gosier. Puis son affolement grandit et ses cris se succédèrent sans interruption, leur rythme ne gardant plus aucun rapport avec celui de son châtiment. À la fin, l'Indien arrêta la main qui frappait. Le Louveteau pendait à son autre main, sans mouvement, et continuait à crier. Ceci parut satisfaire Castor Gris, qui jeta rudement Croc-Blanc au fond de la pirogue. La pirogue, durant ce temps, s'en était allée au fil de l'eau. Castor Gris s'avança pour prendre la rame. Le Louveteau était sur son passage. Il le frappa barbarement de son pied. La libre nature de Croc-Blanc eut une nouvelle révolte. Il enfonça ses dents dans le pied de l'homme à travers le mocassin qui le chaussait. Le châtiment déjà reçu n'était rien comparé à celui qui allait suivre. La colère de Castor Gris fut aussi terrible que fut grand l'effroi du Louveteau. Non seulement la main, mais aussi la dure rame de bois furent mises en œuvre contre lui, et tout son petit corps était brisé et rompu quand Castor Gris le rejeta au fond de la pirogue. Et cette fois, de propos délibéré, il recommença à le frapper du pied. Croc-Blanc ne renouvela pas son attaque. Il venait d'apprendre une autre leçon de son esclavage. Jamais, quelle que soit la circonstance, on ne doit mordre le Dieu qui est votre Seigneur et Maître. Son corps est sacré et le toucher des dents est avec évidence l'offense impardonnable entre toutes, le crime entre les crimes. Lorsque la pirogue rejoint le rivage, le Louveteau gisait, gémissante et inerte, attendant la volonté de Castor Gris. C'était la volonté de Castor Gris qu'il vint à terre, et à terre, il fut lancé sans ménagement aucun pour ses meurtrissures. Il rampa en tremblant. Lip-Lip, qui était présent et avait du rivage assisté à toute l'affaire, se précipita sur lui en le voyant si faible et en trascédant dans sa chair. Gros Blanc était hors d'état de se défendre, et il lui serait arrivé malheur si Castor Gris, enlevant Lip-Lip d'un solide coup de pied, ne l'avait lancé à distance respectable. C'était la justice de l'animal-homme qui se manifestait, et même en l'état pitoyable où il se trouvait, le louveteau en éprouva un petit frisson de reconnaissance. Sur les talons de Castor Gris et jusqu'à sa tente, il boita avec soumission à travers le camp. Ainsi avait-il appris que le droit au châtiment est une prérogative que les dieux se réservent à eux-mêmes et dénient à toute autre créature au-dessous d'eux. Pendant la nuit qui succéda, tandis que chacun reposait dans le camp, Gros Blanc se souvint de sa mère et souffrit en pensant à elle. Il souffrit de sa mère et souffrit en pensant à elle. Il souffrit un peu trop haut, et réveilla Castor Gris qui le battit. Par la suite, il pleura plus discrètement lorsque les dieux étaient à portée de l'entendre. Mais parfois, rôdant seul à l'orée de la forêt, il donnait libre cours à son chagrin et criait tout haut, en gémissant et en appelant. Durant la période de sa vie qui suivit, il aurait pu, grâce à la liberté dont il jouissait encore, céder au souvenir de la caverne et du torrent et s'en retourner dans le wild. Mais la mémoire de sa mère était la plus forte. Comme les chasses des animaux-hommes les entraînaient loin du camp et les y ramenaient ensuite, peut-être aussi reviendrait-elle un jour. Et il demeurait en esclavage, en soupirant après elle. Esclavage qui n'était pas entièrement malheureux, car le louveteau continuait à s'intéresser à beaucoup de choses. Quelque événement imprévu surgissait toujours, et les actions étranges auxquelles se livrent les animaux-hommes n'ont pas de fin. Il apprenait simultanément comment il convenait de se conduire avec Castor Gris. Obéissance absolue et soumission en tout lui étaient demandées. En retour, il échappait au coup et sa vie était tolérable. De plus, Castor Gris lui donnait parfois lui-même un morceau de viande, et tandis qu'il le mangeait, le défendait contre les autres chiens. Ce morceau de viande prenait pour Gros Blanc une valeur beaucoup plus considérable qu'une douzaine d'autres reçus de la main des femmes. C'était bizarre, mais cela était. Jamais Castor Gris ne caressait. Et cependant, était-ce l'effet du poids de sa main et celui de son pouvoir surnaturel, ou d'autres causes intervenaient-elles que le louveteau ne réussissait pas à se formuler, il était indéniable qu'un certain lien d'attachement se formait entre Gros Blanc et son rude seigneur. Sournoisement, par des voies cachées, aussi bien que par la force des pierres volantes, des coups de bâton et des claques de la main, les chaînes du louveteau rivaient autour de lui leur réseau. Les aptitudes inhérentes à son espèce, qui lui avaient dès l'abord rendu possible de s'acclimater au foyer de l'homme, étaient susceptibles de perfection. Elles se développèrent dans la vie du camp, au milieu des misères dont elle était faite, et lui devinrent secrètement chères avec le temps. Mais tout ce qui le préoccupait encore pour le moment était le chagrin d'avoir perdu Quiche, l'espoir qu'elle reviendrait, et la soif de recouvrer un jour la libre existence qui avait été la sienne. Chapitre 11. Le paria. Lip-Lip continuait à assombrir les jours de Gros Blanc. Celui-ci en devint plus méchant et plus féroce qu'il ne l'eût été de sa nature. Il acquit parmi les animaux hommes eux-mêmes une réputation déplorable. S'il y avait quelque part dans le camp du trouble et des rumeurs des cris et des batailles, ou si une femme se lamentait pour un morceau de viande qu'on lui avait volé, on était sûr de trouver Cros-Blanc mêlé à l'affaire. Les animaux hommes ne s'inquiétèrent pas de rechercher les causes de sa conduite. Ils ne virent que les effets, et les effets étaient mauvais. Il était pour tous un perfide voleur, un mécréant qui ne songeait qu'à mal faire, un perturbateur endurci. Tandis qu'il les regardait d'un air narquois et toujours prêt à fuir sous une grêle éventuelle de cailloux, les femmes irritées ne cessaient de lui répéter qu'il était un loup, un indigne loup, destiné à faire une mauvaise fin. Il se trouva de la sorte proscrit parmi la population du camp. Tous les jeunes chiens suivaient envers lui la conduite de Lip-Lip et joignaient leur persécution à celle de son ennemi. Peut-être sentait-il obscurément la différence originelle qui les séparait d'eux, sa naissance dans la forêt sauvage, et cédait-il à cette inimitié instinctive que le chien domestique éprouve pour le loup. Quoi qu'il en soit, une fois qu'ils se furent déclarés contre Cros-Blanc, ce fut désormais chose réglée et leurs sentiments ne se modifièrent plus. Les uns après les autres, ils connurent la morsure de ses dents, car il donnait plus qu'il ne recevait. En combat singulier, il était toujours vainqueur. Mais ses adversaires lui refusaient le plus qu'il pouvait le genre de rencontre. Dès qu'il entrait en lutte avec l'un d'eux, c'était le signal pour tous les jeunes chiens d'accourir et de se jeter sur lui. De la nécessité de tenir tête à cette coalition, Cros-Blanc tira des enseignements utiles. Il apprit comment il convenait de se conduire pour résister à une masse d'assaillants, tout en causant un adversaire séparé le plus de dommages dans le plus bref délai. Rester debout sur ses pattes au milieu du flot ennemi était une question de vie ou de mort, et il se pénétra bien de cette idée. Il se fit souple comme un chat. Même de grands chiens pouvaient le heurter, par derrière ou de côté, de toute la force de leur corps lourd, soit qu'il fût projeté en l'air, soit qu'il se laissât glisser sur le sol, il se retrouvait toujours debout, solidement ancré à notre mère la terre. Lorsque les chiens combattent, ils ont coutume pour annoncer la bataille de gronder, de hérisser le poil de leur dos et de raidir leurs pattes. Cros-Blanc s'instruisit à supprimer ses préambules. Tout délai dans l'attaque signifiait pour lui l'arrivée de la meute entière. Ainsi s'abstenait-il de donner aucun avertissement. Il fonçait droit sur l'ennemi, sans lui laisser le temps de se mettre en garde, le mordait, déchirait et lacérait en un clin d'œil. Un chien avait ses épaules déchiquetées, ses oreilles mises en ruban, avant de savoir même ce qui lui arrivait. Ainsi surpris, le chien était en outre aisément renversé, et un chien renversé expose fatalement à son adversaire le dessous délicat de son cou, qui est le point vulnérable où se donne la mort. C'était une opération que des générations de loups chasseurs avaient enseignée à Cros-Blanc. Comme il n'avait pas atteint le terme de sa croissance, ses crocs n'étaient pas encore assez lourds ni assez forts pour lui permettre de réussir ce genre d'attaque par ses seuls moyens. Mais beaucoup de jeunes chiens étaient venus au camp avec un cou déjà entamé et à demi ouvert. Si bien qu'un jour, s'attaquant dans l'un de ses ennemis sur la lisière de la forêt, il le renversa les pattes en l'air, le traîna sur le sol et, lui coupant la grosse veine du cou, lui prit la vie. Il y eut ce soir-là une grande rumeur dans le camp. Cros-Blanc avait été vu et son méfait fut rapporté au maître de chiens mort. Les femmes se remémorèrent les diverses circonstances des viandes volées, et Castor Gris fut assiégé par un concert de voix furieuses. Mais il défendit résolument l'entrée de sa tente où il avait mis Cros-Blanc à l'abri et refusa, envers et contre tous, le châtiment du coupable. Gros-Blanc fut donc haï des chiens et haï des hommes. Durant tout le temps de sa croissance, il ne connut jamais un instant de sécurité. Menacé par la main des uns et par les crocs des autres, il n'était accueilli que par les grondements de ses congénères, par les malédictions et par les coups de pierre de ses dieux. Le regard scrutant l'horizon tout autour de lui, il était sans cesse aux aguets, alerte à l'attaque ou à la riposte, prêt à bondir en avant en faisant luire l'éclair de ses dents blanches ou à sauter en arrière en grondant. Et quand il grondait, nul chien dans le camp, jeune ou vieux, ne pouvait rivaliser avec lui. Dans son grondement, il incorporait tout ce qui peut exprimer de cruel, de méchant et d'horrible. Avec son nez serré par des contractions ininterrompues, ses poils qui se hérissaient en vagues successives, sa langue qu'il sortait et rentrait et qui était pareille à un rouge serpent, avec ses oreilles couchées, ses prunelles étincelantes de haine, ses lippes retournées et les crochets découverts de ses crocs, il apparaissait à ce point diabolique qu'il pouvait compter pour quelques instants sur un arrêt net de n'importe lequel de ses assaillants. Bien entendu, il savait tirer parti de cet arrêt. Aussi bien, cette hésitation dans l'attaque se transformait-elle souvent, même chez les gros chiens, épouvantés, en une honorable retraite. Toute la troupe des jeunes chiens était tenue par lui responsable des persécutions isolées dont il était l'objet. Puisqu'ils n'avaient pas admis à courir en leur compagnie, Gros-Blanc, en retour, ne permettait pas à un seul d'entre eux de s'isoler de ses compagnons. Sauf Lip-Lip, ils étaient tous contraints de demeurer collés les uns aux autres, afin de pouvoir, le cas échéant, se défendre mutuellement contre l'implacable ennemi qu'ils s'étaient fait. Un petit chien rencontré seul hors du camp par le louveteau était un petit chien mort, ou, s'il échappait, c'était à grand-peine, poursuivi par Gros-Blanc jusqu'au milieu des tentes, en hurlant de terreur et en ameutant bêtes et gens. Le louveteau finit même par attaquer les jeunes chiens, non pas seulement quand il les trouvait isolés, mais aussi quand il les rencontrait en troupe. Alors, dès que le bloc fonçait sur lui, il prenait prestement la fuite et distançait sans peine ses adversaires. Mais dès que l'un de ceux-ci, emporté par le feu de la chasse, dépassait les autres poursuivants, Gros-Blanc se retournait brusquement et lui réglait son affaire. Puis il détalait à nouveau. Le stratagème ne manquait jamais de réussir, car les jeunes chiens s'oubliaient sans cesse, tandis que le louveteau demeurait toujours maître de lui. Cette petite guerre n'avait ni fin ni trêve. Elle était devenue pour les jeunes chiens une sorte d'amusement, mais d'amusement mortel. Gros-Blanc, qui connaissait mieux que le Wild, se plaisait à les entraîner à travers les bois qui avoisinaient le camp. Là, il ne tardait pas à s'égarer et se livraient à lui par leurs cris et leurs appels, tandis qu'il courait, silencieux, à pas de velours, comme une ombre mobile parmi les arbres, à la manière de son père et de sa mère. Un autre de ses tours favoris consistait à faire perdre sa trace au petit chien en traversant quelques cours d'eau. Parvenu sur l'autre rive, il s'étendait tranquillement sous un buisson, et se divertissèrent d'écoutant les cris de déception qui ne manquaient pas de s'élever. Dans cette situation d'hostilité perpétuelle avec tous les êtres vivants, toujours attaqué ou attaquant et toujours indomptable, le développement spirituel de Gros-Blanc était rapide et unilatéral. L'état dans lequel il se trouvait n'était pas un sol favorable pour faire fleurir affection et bonté. C'était là un sentiment dont le louveteau n'avait pas la moindre lueur. Le seul code qui lui avait été enseigné était d'obéir au fort et d'opprimer le faible. Castor Gris était un dieu et un fort. Par conséquent, Gros-Blanc lui obéissait. Mais les chiens plus jeunes que lui ou moins vigoureux étaient des faibles, c'est-à-dire une chose bonne à détruire. Son éducation avait pour directive le culte du pouvoir. Il se fit plus vif dans ses mouvements que les autres chiens du camp, plus rapide à courir, plus alerte, avec des muscles et des nerfs de fer, plus rusé, plus intelligent. Il était nécessaire qu'il devînt tout cela pour qu'il pût résister et survivre à l'ambiance ennemie qui l'enveloppait. Chapitre 12. La piste des dieux. À la chute de l'année, quand les jours furent devenus plus courts et que la morsure du froid eut reparu dans l'air, Gros-Blanc trouva l'occasion qu'il avait si souvent cherchée de reprendre sa liberté. Depuis plusieurs jours, il y avait un grand brouhaha dans le camp. Les tentes avaient été démontées et la tribu, avec armes et bagages, s'apprêtait à aller chercher un autre terrain de chasse. Gros-Blanc surveillait avec des yeux ardents ce remue-ménage inaccoutumé. Lorsqu'il vit les tentes abattues et pliées, les pirogues amenées au rivage et chargées, il comprit de quoi il s'agissait. Déjà un certain nombre de pirogues s'étaient éloignées du bord et quelques-unes avaient disparu au tournant du fleuve, lorsque, très délibérément, le louveteau se résolut à demeurer en arrière. Il attendit un moment propice pour se glisser hors du camp et gagner les bois. Afin de dissimuler sa piste, il entra dans le fleuve où la glace commençait à se former, puis après en avoir pendant quelque temps suivi la rive en nageant, il se blottit dans un épais taillis et attendit. Les heures passèrent et il les occupa à faire quelques sommes. Il dormait quand il fut réveillé soudain par la voix de Castor Gris qui l'appelait par son nom. D'autres voix se joignirent à celle de son maître et il entendit que la femme de l'Indien prenait part à la recherche ainsi que Mitsa, fils de Castor Gris. Gros-Blanc tremblait de peur. Mais, quoique une impulsion intérieure le poussât à sortir de sa cachette, il ne bougea point. Bientôt, les voix moururent au loin, et après une nouvelle attente de plusieurs heures, le louveteau rampa hors du taillis afin de se réjouir librement du succès de son entreprise. Il se mit à jouer et à gambader autour des arbres. Cependant, l'obscurité venait, et voilà que tout à coup, il eut conscience de sa solitude. Il s'assit sur son derrière et se prit à réfléchir, écoutant le vaste silence de la forêt. Un trouble inconnu l'envahit. Il sentait le péril partout, à l'embuscade, autour de lui, un péril invisible et insoupçonné qui se cachait dans l'ombre noire des troncs d'arbres énormes. Il faisait froid aussi, il n'y avait plus ici les chauds recoins d'une tente où se réfugier. Le froid lui montait dans les pattes, et il s'efforçait de s'en garder en les levant successivement l'une après l'autre, ou bien il recourbait sur elle sa queue touffue pour les couvrir. Tout ensemble repassait dans sa mémoire une succession d'images qui s'y étaient imprimées. Il revoyait le camp, ses tentes et la lueur des feux. Il entendait les voix stridentes des femmes, les basses grondantes des hommes et les aboiements des chiens. Il avait faim et il se souvenait des morceaux de viande et de poisson qu'on lui jetait. Et ici, pas de viande, rien que l'inexprimable et menaçant silence. Son esclavage l'avait amolli. En perdant le sens des responsabilités, il s'était affaibli et ne savait plus comment se gouverner. au lieu du bruissement de la vie coutumière, silence et nuit l'étreignaient. Il en était tout paralysé, qu'allait-il advenir? Il frissonna. Quelque chose de colossal et formidable venait de traverser le champ de sa vision. C'était l'ombre d'un arbre projeté par la lune, dont la face s'était dégagée des nuages qui la voilaient. Il se rassura et gémit doucement. Puis il tut son gémissement de peur que celui-ci n'éveillât l'attention du péril embusqué autour de lui. Contracté par le froid de la nuit, un autre arbre fit entendre un craquement violent. C'était directement au-dessus de sa tête. Il glapit de frayeur et une panique folle le saisit. De toutes ses forces, il courut vers le camp. Un invisible besoin de la protection de la société de l'homme s'emparait de lui. La senteur de la fumée des feux emplissait ses narines. Dans ses oreilles bourdonnaient les sons et les cris coutumiers. Il sortit enfin de la forêt, de son obscurité et de ses ombres, pour parvenir à un terrain découvert qu'inondait le clair de lune. Des yeux, il y chercha vainement le camp. Il avait oublié. Le camp était parti. Il s'était brusquement arrêté de courir, car où aller maintenant? Il erra, lamentable et abandonné, sur l'emplacement déserté où s'étaient élevées les tentes, flairant les tas de décombres et les détritus laissés par les dieux. Combien il se fut réjoui d'une volée de pierres lancée sur lui par une femme irritée, combien heureux eût-il été de la lourde main de Castor Gris s'abattant sur lui pour le frapper. Même Lip-Lip eût été le bienvenu, et avec lui les grondements de la troupe entière des chiens. Il arriva ainsi à la place de la tente de Castor Gris, et au beau milieu du sol, il s'assit, puis pointa son nez vers la lune. Parmi les spasmes qui lui contractaient le gosier, il ouvrit sa gueule béante, et une clameur en jaillit qui venait de son cœur brisé, qui disait sa solitude et son effroi, son chagrin d'avoir perdu Quiche, toutes ses peines et toutes ses misères passées, et aussi son appréhension des dangers de demain. Ce fut pour la première fois le long et lugubre hurlement du loup lancé par lui à pleine gorge. L'aube du jour dissipa une partie de ses craintes, mais accrut le sentiment de sa solitude par le spectacle de la terre nue qui s'étendait autour de lui. Sa résolution fut bientôt arrêtée. Il s'enfonça à nouveau dans la forêt et, suivant la rive du fleuve, il entreprit d'en descendre le cours. Il courut toute la journée sans prendre aucun repos. Son corps de fer ignorait la fatigue et semblait créé pour courir toujours. Une hérédité d'endurance rendait possible au louveteau un effort sans fin et lui permettait d'imposer à sa chair, même meurtrie, de marcher quand même en avant. Là où le fleuve se resserrait, entre les falaises abruptes, il les contournait pour en atteindre le sommet. Il traversait à gué ou à la nage les affluents qu'il rencontrait, rivières et ruisseaux. Souvent, il se risquait à suivre la glace qui commençait à se former en bordure de la rive. Parfois, il lui arrivait de passer à travers, il lui fallait lutter contre le courant pour n'être point noyé. Sa pensée demeurait fixée sur la piste des dieux. Sa seule crainte était qu'ils n'eussent quitté le bord du fleuve pour s'enfoncer dans l'intérieur des terres. Gros-Blanc était d'une intelligence au-dessus de la moyenne de celle de son espèce. Cependant, sa conception mentale n'était pas assez formée pour se porter sur l'autre rive du Mackenzie. Que serait-il advenu si la piste des dieux s'était poursuivie de ce côté? Pas un moment cette idée ne pénétra le cerveau du louveteau. Plus tard, quand il eut voyagé davantage à travers le monde, quand il eut acquis plus d'âge et d'expérience et connu plus de pistes et de fleuves, Il n'eut pas manqué de songer à cette éventualité et de s'en inquiéter. Mais à cette heure, il allait en aveugle, ne faisant entrer en ligne de compte dans ses calculs que la rive seule du Mackenzie sur laquelle il se trouvait. Toute la nuit encore, il courut, butant dans l'obscurité contre des obstacles qui le retardaient sans l'arrêter. Vers le milieu du second jour, son corps, si dur qu'il fût, commença à fléchir. Sa volonté le soutenait seul. Il courait, depuis 30 heures et n'avait pas mangé depuis 40, ce qui diminuait ses forces. Ses plongées répétées dans l'eau glacée avaient terni comme un vieux feutre sa magnifique fourrure. Les larges coussinets de ses pieds étaient meurtris et saignaient. Il s'était mis à boiter, et sa boiterie augmentait d'heure en heure. Pour comble de malheur, le ciel s'obscurcit et la neige commença brutalement à tomber, à la fois cinglante et fondante, glissante sous les pieds et lui cachant la vue du paysage qu'il traversait. Sa marche en fut encore retardée. Cette nuit-là, Castor Gris avait décidé de camper sur la rive opposée du Mackenzie. Mais un peu avant la nuit, un élan qui était venu boire dans le fleuve sur cette même rive que suivait Gros-Blanc avait été aperçu par Kukush, la femme de Castor Gris. Si la bête n'était pas venue boire, si Mitsa n'avait pas gouverné en longeant la terre à cause de la neige, si Kukush n'avait pas vu l'animal, et si Castor ne l'avait pas tué d'un heureux coup de fusil, les faits qui en résultèrent eussent pris un autre cours. Le louveteau, ne trouvant pas l'Indien, aurait passé outre et s'en serait allé plus loin, soit pour mourir, soit pour retrouver sa voie vers ses frères sauvages et redevenir un des leurs, c'est-à-dire un loup, jusqu'au terme de ses jours. La nuit était tout à fait tombée. La neige descendait plus épaisse, et Gros-Blanc geignait à mi-voix en trébuchant et boitant de plus en plus, lorsqu'il rencontra sur le sol blanc une piste fraîche. Elle était si fraîche que nul doute n'était possible sur son origine. Retrouvant toute son ardeur, il la suivit du bout du fleuve jusque parmi les arbres. Les bruits du campement ne tardèrent pas à frapper ses oreilles, et bientôt il vit la lueur du feu, Kukush en train de faire la cuisine, et Castor Gris accroupi, qui mordait dans un gros morceau de suif cru. Il y avait de la viande fraîche dans le camp. Le louveteau s'attendait à être battu. Il se tapit par terre à cette pensée, et ses poils se hérissèrent légèrement, mais il avança quand même. Il craignait et détestait le châtiment qu'il savait lui être réservé, mais il savait aussi que le confort du feu l'attendait, et la protection des dieux, et la société des chiens. Société d'ennemis, sans doute, mais société, cependant, qui était ce à quoi il aspirait. Il s'avança donc, contracté sur lui-même, faisant des courbettes et se traînant sur son ventre jusqu'à la lumière du foyer. Castor Gris l'aperçut et s'arrêta de mâcher son suif. Gros-Blanc rampa droit vers lui, la tête basse, dans toute l'abjection de sa honte et de sa soumission. Chaque pouce de terrain que gagnait son ventre se faisait plus lent et plus pénible. Finalement, il se coucha aux pieds du maître, en la possession duquel il s'abandonnait corps et âme. De sa propre volonté, il était venu s'asseoir, livrer sa liberté. Le louveteau tremblait en attendant le châtiment qui allait immanquablement tomber sur lui. Il y eut, au-dessus de sa tête, un mouvement de la main de Castor Gris. Il se courba d'un geste instinctif. Le coup ne s'abattit pas. Alors il se risqua à lever son regard. Castor Gris séparait en deux le morceau de suif. Castor Gris lui offrait un des deux morceaux. Très doucement, et non sans quelque défiance, il flaira d'abord le suif, puis le mangea. Castor Gris ordonna de lui apporter de la viande, et tandis qu'il mangeait, le garda contre les autres chiens. Ainsi repu, Gros-Blanc s'étendit aux pieds de Castor Gris, regardant avec amour le feu qui le réchauffait, clignant des yeux et tout somnolent, certain désormais que le lendemain ne le trouverait pas errant à l'abandon à travers la noire forêt, mais dans la compagnie des animaux hommes et côte à côte avec les dieux auxquels il s'était donné.